nous recommençons. Nous avons recommencé en fait le mois dernier. Donc je profite de l'occasion pour vous dire que le programme du séminaire du soir que nous faisons à l'hôtel de Pomereux est donc maintenant imprimé sur les questions, au fond, expérience des transformations politiques. Hein, voilà, donc, ce beau programme, donc, à la fois sur le fond et dans la forme, hein, grâce à... Donc, à Déborah qui a travaillé pour nous. Donc, vous êtes évidemment les très bienvenus. Hein, et nous commençons donc le 6 mars. Nous terminons plus exactement les expériences des accélérations avec la prochaine séance sera pas celle du 24 octobre que nous avons dû malheureusement annuler, mais celle du 19 décembre avec Françoise Saban sur les questions de l'alimentation en Chine. Voilà, donc le 8-9, donc comme vous le savez, comme je vous l'ai dit la dernière fois, donc pourra financer une bourse d'accomplissement pour un thésard doctorant de l'école, donc qui lui sera remis le 4 décembre, donc dans notre amphithéâtre au 105 boulevard Raspail. Vous y êtes bien sûr tout à fait conviés, et on remercie ceux qui ont contribué à cette bourse, et d'autres peuvent encore le faire, bien sûr, pour des bourses d'accomplissement prochaines, car, comme vous le savez, l'objectif du fonds de dotation, prioritairement, est de soutenir la jeune recherche de l'école, la jeune recherche en sciences sociales de l'école. Alors, aujourd'hui, donc, c'est l'avant-dernière fois que Emmanuel Laurentin sera avec nous. La dernière fois sera, pour un livre que je viens de publier. Ce sera un grand honneur pour moi et un grand plaisir d'en débattre avec lui devant vous. Ce sera le 19 novembre. Mais ensuite, son emploi du temps ne lui permettra plus, malheureusement, de venir nous rejoindre sitôt. Mais le 8-9, on le remerciera, bien entendu, de manière particulière la fois prochaine. Mais c'est pour vous dire, c'est pour vous prévenir doucement, qu'il va falloir faire notre deuil de sa présence. Et je vous le dis avec les ménagements nécessaires, dès maintenant. Voilà.
Consacré aux funérailles.
C'est ça. Exactement. Exactement. Ben justement, voilà la transition. Merci. Et donc aujourd'hui, nous recevons avec un grand plaisir Avenir Ben Amos. Donc les historiens français croisent souvent, qui est donc professeur à l'université de Tel Aviv. Pour ce livre nouveau que viennent de publier les éditions de l'école, donc Le Vif saisit le mort, funérailles politiques et mémoires en France, 1789-1996. Ceci annonce par certains côtés aussi nos expériences de transformation politique, dont nous ferons notre séminaire l'année prochaine, à partir de mars 2014. Et bien voilà, donc nous avons une heure, vous savez quel est le principe, donc moins arrêté parce que on a commencé un peu plus tard, en raison des problèmes d'ouverture de porte dont nous ne sommes pas tout à fait maîtres. Et donc à 9h, la pause habituelle, et puis ceux qui auront le temps de parler encore que une dizaine de minutes avec Avner et Emmanuel, qui aujourd'hui n'est pas trop pressé, pourront rester avec grand plaisir. Bon, merci Avner de ta présence, merci encore à toi Emmanuel. Et Emmanuel, je te laisse donc la parole.
Alors, Avenir Ben Amos, vous faites partie d'une génération d'historiens qui s'est intéressée aux formes symboliques de la politique. Vous avez été formé à Tel Aviv, où vous enseignez aujourd'hui, comme l'a dit Stéphane à l'instant, à Berkeley et à Paris. Et vous n'avez cessé de mêler anthropologie et histoire, donc pour mieux comprendre justement ces rituels funéraires, en ce qu'ils témoignent en fait de la fabrique du politique. Vous avez participé au séminaire de Pierre Nora sur les lieux de mémoire, et de Marat à De Gaulle, vous avez tenté de donner du sens à ces moments d'émotion collective qui rassemblent une population autour d'un catafalque. C'est le résultat de ces travaux qui est enfin publié en français. Je dis enfin parce que ça fait maintenant 13 ans. Je vous ai demandé tout à l'heure combien de temps il nous séparait de la publication en anglais de ce travail. Donc ça fait maintenant 13 ans que vous l'avez publié en anglais. Et c'est assez étrange parce qu'au bout du compte, certains de ceux qui se sont inspirés de vos propres travaux ont eu le temps de les publier en français l'année dernière, ou il y a 2 ans, ou il y a 3 ans, alors que vous-même, on ne pouvait pas vous lire dans notre langue jusque-là. Donc il faut remercier les éditions de l'École des Études d'avoir enfin traduit ce Vif saisit le mort, qui raconte justement cette longue histoire du rapport à la mort depuis la Révolution française jusqu'à aujourd'hui. Alors, plusieurs questions pour commencer. Peut-être celle de cette question du corps donc souffrant, souffert, qui a souffert, du corps supplicié qui est exposé, par exemple pendant la Révolution française. Est-ce que c'est une nouveauté et en quoi cela rompt avec les rituels funéraires de l'Ancien Régime, par exemple, Avenir Bernamos?
Bonjour à tous, à toutes. Je voudrais d'abord remercier les éditions des écoles de hautes études en sciences sociales pour faire traduire cet ouvrage. C'était pas facile, fallait trouver le moyen. Et je les remercie. Et en ce qui concerne les corps, il y a toujours de continuité et de coupure dans l'histoire. Alors, il faut d'abord dire, pour les funérailles, les corps, ça me paraît étonnant, c'est pas très important. Parce que le corps est caché, dans la plupart des temps.
Sauf à quelques exceptions.
Voilà. Alors, les funérailles, c'est le grand moment, pour moi, c'est un grand moment de fête civique, on parlera de ça après. Alors, le corps exposé de la Révolution française, c'est une exception. Les pelletiers, Marat, il y a bien sûr une continuation avec ce qui se passait au Moyen-Âge, le corps de martyrs, le corps souffrant. Mais je dirais qu'il y a une transformation. J'utilise la phrase de Mona Ozouf, les transferts du sacré. Je crois qu'il y a un transfert du sacré de l'Église vers la République en utilisant les mêmes, je dirais, c'est presque les mêmes symboles. Mais pour simplifier les choses, bien sûr, on utilise le même symbole, le corps souffrance, le sang qui coule, pour éveiller les émotions très fort, mais pour mobiliser les émotions vers la République, vers l'ère nouvelle, l'avenir, c'est plus le passé, ça va vers l'avenir. Alors c'est ça qui est intéressant, comment la République utilise plus ou moins les mêmes symboles en le transformant pour le récit républicain.
Alors vous tentez de réfléchir justement aux racines de cette émotion voulue par les premiers républicains, par ces révolutionnaires. Ça va chercher les racines se plongent jusqu'où? Est-ce que c'est du côté de la Grèce qu'ils vont chercher ou est-ce que c'est plutôt du côté de Rome quand ils cherchent à tirer leur histoire vers une histoire ancienne, en l'occurrence d'Avenir Bernamos?
Alors on sait très bien, pour les 18e-istes, c'est plutôt Rome qui est
le modèle,
la République romaine. Mais je dirais qu'il y a aussi quelque chose plutôt, comment dirais-je, structurel. Cet rite funéraire républicain, quand on aux gens simples, aux soldats, aux généraux, il y a aussi ça en Athènes. Il y a un modèle athénien qu'on a pas mal étudié. Nicole Roy a étudié ça dans son ouvrage sur l'invention d'Athènes. Il y a les grands discours funèbres de Péricles autour de ces morts pour la patrie. Alors, il y a d'un côté toute cette symbole, geste, mémoire romaine, et de l'autre côté, cette idée républicaine athénienne utilisait les morts toujours pour la patrie.
Alors, la révolution est un temps, mais ce que vous racontez, c'est une longue histoire qui nous conduit jusqu'à aujourd'hui. Donc, on va passer par le 19e siècle, très brièvement, avec évidemment des retournements de régimes très nombreux. D'abord l'Empire, puis la Restauration, puis la monarchie de Louis-Philippe, puis la Seconde République, et enfin, avant la Troisième République, le Second Empire. Et évidemment, vous analysez pied à pied, moment par moment, les retournements, la façon dont justement cette question des funérailles nationales, de ces moments d'émotion collective, se retourne, puisqu'il y a quelquefois des républicains qui réclament ce type de funérailles sous des régimes qui ne sont pas républicains, puis d'autres moments où cela s'inverse. Comment peut-on qualifier justement ce profond bouleversement du 19e siècle à venir Benamos, où effectivement tout le monde récupère à un moment donné cette façon de faire, cette volonté de montrer le corps, ou du moins le cercueil, dans l'espace public pour pouvoir avoir une revendication politique derrière?
Bon, alors ça, on peut faire la politique comparative. Alors, partout dans l'histoire, peut-être chez tous les peuples, même aujourd'hui au Moyen-Orient, chez les Palestiniens et chez les Israéliens, on utilise les corps, soit de soldats morts, soit du martyr, soit de ce qui est mort.
Un homme politique ou...
Non, même un terroriste, ouais. Pour mobiliser les gens pour la politique. Alors, mais il y a des gens qui font ça d'une manière plus efficace ou un peu moins efficace. C'est ça la question. Comment mobiliser la communauté autour du corps du martyr ou de l'homme politique qui est mort? Alors, pour les républicains, il me semble que les républicains étaient très efficaces à les faire pendant le 19e siècle, à la fois quand ils étaient à l'opposition. Mm-hmm. On connaît très bien Victor Hugo qui a raconté ça, les funérailles dans le Misérable. Mm-hmm. Il y a les grands funérailles du général
Lamarque
qui ont mobilisé les gens. Alors il y avait toujours d'abord des funérailles d'opposition autour des hommes politiques républicains, et il faut le dire, c'était à l'époque, les funérailles étaient un espace où on pourrait faire une manifestation.
C'est ça.
Parce que ça a été interdit par les pouvoirs. Alors c'était le seul moment où les républicains pourraient défiler dans la rue avec des symboles, avec des chansons, avec parfois des drapeaux. C'était beaucoup plus difficile, mais pour mobiliser les gens autour du monde.
Ce qui est étrange, et ce que vous racontez bien dans votre livre, Avenir Benamos, c'est comment ce symbole qui a été inventé par la Révolution du Panthéon a été immédiatement adopté d'une certaine façon. Puisque ce que vous racontez, c'est que tout au long du 19e siècle, alors que ce Panthéon avait été rempli par Napoléon, par des soldats qui sont restés un peu inconnus pour beaucoup d'entre eux aujourd'hui, eh bien les républicains, par exemple, lorsqu'ils ont envie de rendre hommage à quelqu'un, au moment d'une funéraille, ils tentent d'aller au Panthéon, ils tentent d'emmener le corps au Panthéon. C'est interrompu, la police les empêche de le faire, ils doivent aller au cimetière. Mais on voit bien que le Panthéon est une sorte de lieu suprême pour pouvoir faire sa revendication politique dans la rue.
Le Panthéon, c'est un temple républicain. Alors, toujours, le Panthéon, c'est d'abord une église. Une église qui a été pas tout à fait terminée, mais elle a été... est devenu un temple pour la République pendant la Révolution française, et depuis ça restait comme un lieu sacré des républicains où il fallait mettre le grand. Bien sûr, c'était pas possible, ils savaient très bien que c'était ça aurait pas possible pendant cette manif, mais la tentation y était, et ça a beaucoup aidé de créer cette violence de rue, il faut le dire, parce que l'autorité essayait de les empêcher. Mais les panthéons restaient tout le temps comme un lieu sacré, imaginaire, mais aussi très physique, très pesant à Paris.
Alors, on passe peut-être sur la Seconde République, parce qu'on a peu de temps pour développer avec vous, Avenir Benamos. Arrivons au Second Empire. Alors là, évidemment... à nouveau un retournement de pouvoir, une nouvelle dynastie qui se raccroche donc à Napoléon Ier. Que se passe-t-il à ce moment-là? Là, on voit bien que le pouvoir tente là aussi de récupérer ce genre de manifestation. Par exemple, vous racontez très bien l'enterrement voulu de Béranger, donc dont on on enlève une partie de son œuvre pour n'en garder qu'une seule. C'est-à-dire, il y a d'ailleurs un livre qui vient de sortir de Sofiane Le Terrier qui sur ce thème-là, justement, qui raconte l'histoire de Béranger. Et donc, on ne veut garder de Béranger, ce grand chansonnier, chanteur, etc., créateur de chansons, que l'œuvre supposée défense de Napoléon Ier, tout en enlevant et en gommant le reste de son œuvre. Mais c'est une façon pour Napoléon III de s'inscrire dans la lignée de son oncle.
Alors ça, c'est toujours la grande question. À qui appartient le corps? Est-ce que ça appartient à la famille et à la patrie, en telle partie ou telle partie? Alors, le pouvoir de Napoléon. Napoléon utilise toute sa possibilité pour dire aux républicains de l'opposition, non, ça appartient à nous. C'est-à-dire, on ne peut pas faire une manif anti-napoléonienne à partir de Béranger, même si Béranger était lui-même lié, bien sûr, à l'opposition. Et on a appelé ça la récupération du cadavre. C'est ça tout l'enjeu politique autour du corps de grand homme, du savant.
Alors, il y a des moments tendus. Par exemple, vous racontez comment, après la Commune, au tout premier temps de la Troisième République, la bataille des enterrements civils a été une bataille très, très marquée. Vous pouvez nous raconter ce moment un peu particulier de la bataille des enterrements civils, parce que moi, je connaissais pas ce moment particulier de l'histoire. Donc, des gens qui refusent les honneurs militaires, alors qu'ils y auraient droit, a priori. Pourquoi les refusent-ils? Et quel est justement ce moment-là, donc très marqué par le souvenir de la répression de la Commune, en l'occurrence?
C'est le refus d'honneur militaire, mais c'est aussi la volonté d'avoir des funérailles laïques.
Bien sûr.
Qui sont pas tout à fait, parfois ils sont interdits, parfois c'est très tôt le matin, très tard le soir, il faut prendre de rue un peu petite aux alentours. C'est-à-dire, il ne faut pas toujours, c'est la volonté du pouvoir, empêcher que ce soit une manif publique autour et marcher dans la rue, procession funèbre, sans le prêtre, sans la croix, sans des signes extérieurs chrétiens, ça c'est déjà pour les autorités et pour l'opposition, c'est subversif. Et aussi, l'honneur militaire, c'est l'honneur de l'armée qui a fait la répression de la Commune. Alors c'est pour ça qu'on refuse ce genre d'honneur qui vient de là-haut. Alors c'est toujours cet espace public qu'il faut contrôler, soit pour des signes religieux, soit avec le signe politique.
Alors qu'est-ce qui se passe avec la mort de masse de la Première Guerre mondiale, Amir Mélamos? Parce que là, vous nous dites parfois, et vous dites qu'au bout du compte, cette mort de masse de la Première Guerre mondiale, cette inhumation des soldats inconnus ou des soldats peu connus, vous fait penser à cette république athénienne dont on parlait tout à l'heure, par justement la volonté de rendre hommage aux plus humbles des gens qui se sont battus pour la patrie. Mais c'est surtout la masse de morts qu'il faut honorer qui devient très différente. Alors, qu'est-ce que ça change dans le XXe siècle, ce début de XXe siècle, que ce passage à la mort de masse avec la Première Guerre mondiale en matière de funérailles nationales ou de funérailles donc républicaines?
Bon, il faut d'abord savoir qu'avant le XIXe siècle, il n'y avait pas vraiment de tombeaux pour les peuples. C'est-à-dire, les cimetières, c'est le phénomène moderne, les cimetières qu'on connaît aujourd'hui, chacun a le droit de sa propre tombeau de famille, tombeau individuel. Ça date plus ou moins 18e, 19e siècle. Alors, je dirais, la démocratisation de tombeaux, ça fait partie de ce phénomène de
individualisation.
Oui, aussi ça, et pourquoi pas, le bourgeoisement de la mort, ça fait partie de ce phénomène de la commémoration des guerres de la Première Guerre mondiale pour les soldats, parce que chaque soldat, a le droit de sa propre tombeau. Alors, c'est d'abord la démocratisation du monde. Et puis, il y a ce phénomène de soldats inconnus, c'est-à-dire tous ces corps qu'on ne savait pas donner le nom à un tel ou tel corps. Alors, il fallait trouver un moyen pour faire une espèce de tombeau symbolique, pour que toutes les familles puissent penser, peut-être c'est leur propre fils, parce que vous savez, il y avait une grande cérémonie, intime, mais assez grande, pour choisir parmi 8 corps qui ont été... on a fait venir 8 corps de 8 champs de bataille différents, pour choisir un seul qui soit porté à l'Arc de Triomphe. C'est-à-dire chaque famille pourrait imaginer que c'est son propre fils qui soit là-bas. Alors, à la fois, il y a le grand général, bien sûr, Foch, Joffre, on a de grands, des énormes funérailles, mais aussi le poilu. Chacun avait le droit de sa propre croix ou sa propre tombeau. Et ça, c'est le grand phénomène de la Première Guerre mondiale, la commémoration en masse. Et ça se trouve partout, c'est pas uniquement en France, en Grande-Bretagne, Allemagne, c'est un peu plus compliqué, mais en Australie aussi, même en Israël, même en Égypte, on trouve partout ce genre de cimetières militaires.
Alors, faisons encore un saut pour se rapprocher de nous. Vous avez été très sensible, évidemment, à ce qui s'est passé en 1964 avec panthéonisation de Jean Moulin, parce que c'est, dites-vous, un moment très important, à la fois pour le pouvoir gaulliste, qui rend hommage à un homme qui est à la fois quelqu'un qui a servi le général de Gaulle pendant la résistance, mais qui aussi venait des rangs de la gauche et donc rend hommage à une certaine gauche, d'une certaine façon. Mais vous dites aussi que cette cérémonie télévisuelle et radiophonique, puisqu'on en a l'enregistrement entier avec le discours d'André Malraux, est aussi un nouvel âge, pourrait-on dire, pour ce type de cérémonie, puisqu'il ne s'agit pas d'être simplement rassemblé autour du lieu, mais, d'ailleurs, vous expliquez ce que je ne savais pas, que la manifestation publique autour de Jean Moulin a eu lieu la veille de cette cérémonie que l'on connaît comme étant la cérémonie à Jean Moulin, qui là était réservée à une sorte d'élite de dignitaires du régime de la Ve République. Et donc, c'est un moment nouveau parce que tout le monde peut le voir à distance ou l'entendre à distance grâce à la radio.
Alors il y a plusieurs étapes de la médiatisation de la mort. 19e siècle, c'est la presse. Alors la presse, c'est déjà presse nationale et presse locale aussi. Le funérail de Victor Hugo, c'est partout. Et avec le journal illustré, les illustrations, et plus tard, les photos. Après, c'est la radio, et la radio, ça permet de faire quelque chose, comment dirais-je, simultané. C'est-à-dire, nous sommes à Lyon ou à Marseille, on peut entendre, pendant à l'entre-deux-guerres surtout, entendre ce qui se passe au même moment à Paris. Alors ça déjà nous donne une idée de nous-mêmes, de la nation, toute la nation autour de cet événement parisien. Après, c'est l'actualité filmée, ça passe une semaine après, mais c'est déjà pas mal. Et puis, il y a la télévision. La télévision, c'est le moment, c'est le grand moment de médiatique, pas uniquement de funérailles. Il y a toute une histoire de ce que l'on appelle media event, les événements médiatiques, qui c'est-à-dire l'événement lui-même n'a pas un sens sans la télévision. L'événement est organisé pour l'événement lui-même, mais aussi pour qu'il passe à la télé et tous les pays, pourquoi pas, tout le monde peut regarder cet événement en direct.
Quasiment simultanément, un peu avant, c'était les funérailles de John Fitzgerald Kennedy, aux États-Unis, qui correspondaient à une année près à ce que vous racontez là. Donc, allez-y.
Non, mais il faut Je veux dire, pour Moulin, il y avait toujours cette problématique de à qui appartient Moulin ? La gauche, la droite,
appartient à la France.
À la France, voilà.
Comme a dit le général de Gaulle.
Et c'est pour ça que les, je dirais, les funérailles sont si efficaces pour dire nous sommes ni de gauche, ni de droite, ni catholique, ni laïque. Voilà, nous sommes français. C'est-à-dire, les funérailles, c'est le moment face à la mort, nous sommes tous égaux. C'est-à-dire qu'on perd, et ça c'est l'exercice politique, gommer la politique, dire non, nous ne sommes plus de gens politiques, pas du tout, je suis le président de la République, je représente tous les Français. Mais il y a toujours de la politique derrière, mais on peut avec ça gommer la politique.
Alors, un dernier mot avant de donner la parole à la salle et donc avant les questions, Amir Menaros. Vous insistez, pour terminer, sur le cas particulier de Gaulle et de Mitterrand, de ses funérailles, qui, dites-vous, sont à la fois républicaines et monarchiques, et donc, d'une certaine façon, finissent par rallier les deux France, d'une certaine façon. Alors, vous pouvez en dire un petit mot de ces deux funérailles-là ?
D'accord. Bon, d'abord, la Ve République, on sait bien, les présidents de la Ve République, ce n'est pas comme les présidents de la 3e ou la 4e, ce sont pas exactement, mais de monarques. Il y a cette tradition c'est-à-dire royaliste qui revient. Le pouvoir des présidents et le symbole des présidents qui représentent la France. Alors, c'est pour ça aussi que les funérailles, à la fois de Gaulle et Mitterrand, sont des funérailles de monarque, mais ce qui est plus intéressant pour moi, c'est que toujours il y a cette continuation en culture. C'est-à-dire, Mitterrand était bien sûr anti-gaulliste, mais il avait le sens de du symbolique, du théâtre, des performances, au moins comme de Gaulle. Alors, comme de Gaulle, il y avait trois lieux de funérailles. Pour de Gaulle, c'était
Colombey.
Notre-Dame, et puis le défilé aux Champs-Élysées, vers l'Arc de Triomphe. Pour Mitterrand, toujours, ça, c'était un peu surprenant, Notre-Dame, Jarnac, c'est le parallèle de Colombey, et la place de la Bastille, qui est l'opposé
des
Champs-Élysées, de l'Arc de Triomphe.
Un lieu symbolique de gauche et un lieu symbolique de
droite. Voilà, on peut faire la politique symbolique de Paris à partir de ces funérailles. Mais à la fois pour De Gaulle aussi pour Mitterrand, il y avait la télé. Et la télé, il fallait aussi écouter les paroles de...
Des commentateurs.
Les commentateurs de Gaulle, c'était un très célèbre commentateur de télévision.
Zitron.
C'était magnifique. Il a évoqué la Grande France et la patrie pendant les funérailles, en direct. Mais pour Mitterrand, il fallait choisir, parce que les funérailles, ou la cérémonie à Notre-Dame, et le funérail à Jarnac, c'était au même moment. Alors il fallait choisir, soit on est à Paris, soit on est à Jarnac, et l'écran de télévision était
coupé en deux,
pour assister en même temps à des événements.
Mais Dieu est omniprésent, donc c'était normal.
On ne va pas entrer dans cette discussion.